voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Bien, à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays, les restaurants appelés communément Malewa sont de plus en plus fréquentés. Les clients ont le choix entre différents mets congolais servis à des prix abordables. Cependant, certains clients estiment que la propreté fait souvent défaut dans ces restaurants des fortunes. Quelles sont les normes d'hygiène à observer coûte que coûte dans ces Malewa pour éviter une maladie et bien d'autres problèmes? Apollinaire Assir est chef des cellules de l'hygiène à la coordination provinciale ici à Kinshasa. Assir Apollinaire, encore une fois, bonjour.
Bonjour une fois de plus, Jordi.
Alors, nous parlons des normes d'hygiène dans les restaurants qu'on appelle Malewa. D'abord, pourquoi on les appelle ainsi?
Bon, Malewa, je crois que c'est une appellation purement locale, hein. C'était vernaculaire, et c'est un nom que les Congolais ont trouvé comme ça, et je n'ai pas assez d'informations sur sa signification.
Voilà. Et dans ces Malewa, on déplore, certains clients déplorent le manque d'hygiène. Est-ce que c'est les constats que vous avez fait aussi dans ces Malewa à travers la ville de Kinshasa?
Oui, effectivement, le constat, c'est celui-là. Il y a pas mal d'opérateurs qui ne respectent pas les conditions exigées pour la vente de ces aliments cuisinés. Donc ça, nous le déplorons, nous aussi, de notre côté. Mais on baisse pas les bras. Il y a des initiatives dans le sens de la promotion de l'hygiène dans ces établissements alimentaires. Nous avons initié un certain nombre d'activités qui vont sûrement aider les opérateurs à améliorer la qualité des services dans ces établissements qui sont importants pour la vie de tout le monde.
Alors pourquoi généralement les conditions d'hygiène laissent à désirer dans ces restaurants?
Bon, il faut vous dire que les Malewa, j'aurais bien voulu commencer par un peu de l'historique, quoi. C'est l'OMS, c'est pas une invention congolaise, c'est une affaire mondiale. On parle de la restauration informelle dans les aliments de rue. Et cette restauration informelle n'a pas commencé ici. Il y a beaucoup de pays africains qui les pratiquent. Quand l'OMS s'est rendu compte de leur effectivité d'activité, elle a initié des enquêtes. Elle a trouvé qu'effectivement, il y avait un problème d'hygiène et un problème de santé. Alors, au départ, l'OMS allait interdire ces genres d'aliments. Mais après, les études... Il s'est rendu compte que derrière les Malewa, il y a la survie des familles, il y a la petite économie. Et il a décidé finalement d'accompagner les Malewa. Voilà pourquoi il a mis en place certaines normes, dans les des aliments que l'OMS appelle aliments de rue, ou le concept de restauration informelle. Et aujourd'hui, il est demandé à tous les opérateurs de se conformer à ces normes-là. Et ces normes sont les conditions sine qua non pour vendre les aliments sur la rue en vue de sécuriser le consommateur.
Alors, voilà. Quelles sont ces conditions d'hygiène à observer dans les restaurants des rues, comme vous le dites?
Bon, les conditions d'hygiène se résument à trois concepts consubstantiels. C'est le respect de l'hygiène comme tel, respect de l'assainissement des bases et puis de l'eau. Donc, ce sont là les trois concepts qui doivent marcher de base, des pairs. En ce qui concerne les pratiques, c'est-à-dire l'OMS parle en ce qui concerne les aliments de rue, les cinq clés de l'OMS pour la consommation des aliments plus sûrs. Si les consommateurs, les opérateurs respectent ces cinq clés, ils peuvent servir les aliments sans trop de problèmes, parmi lesquels nous pouvons citer avoir l'habitude de se laver les mains. Ça, c'est la première clé, une première initiative. Donc, on ne peut pas servir les aliments s'il n'y a pas de l'eau. De l'eau pour l'opérateur, de l'eau pour le consommateur. Parce qu'on sait que à côté, on peut aller faire les petits besoins, les grands besoins, il faut qu'on se lave les mains. Donc cette pratique est très importante. Il faut que les opérateurs apprennent à utiliser des bonnes matières premières, c'est-à-dire l'eau potable pour la production des aliments. Et les bonnes matières premières, c'est-à-dire éviter les matières premières ou les ingrédients qui sont périmés ou avariés, même non conformes. Et il faut que les opérateurs apprennent à servir les aliments chauds. Hein? Éviter de servir les aliments préparés la veille ou ne respectant pas les temps d'attente. Et puis, il faut que les opérateurs aussi sachent que ils doivent avoir un abri, hein, servir dans un abri pour éviter, par exemple, les poussières qui peuvent tomber sur les aliments ou les vecteurs qui sont les insectes volants qui peuvent porter des maladies et autres nuisances qui sont liées à l'environnement immédiat de la production des aliments. Donc voilà, ça c'est un peu... en quelques lignes, ce que nous pouvons appeler comme les normes à observer pour éviter de exposer les consommateurs.
Alors au début, vous avez parlé des trois éléments à observer. Premièrement, vous avez parlé du respect de l'hygiène.
Oui.
Ensuite, quel est le deuxième élément?
C'est l'assainissement des bases, c'est-à-dire la propriété des lieux. Mmh. Hein, il faut que les lieux soient propres. Et il doit éviter de préparer les aliments à côté des immondices et des vecteurs de maladies transmissibles, des poussières. Hein? Donc ça, c'est l'assainissement, plein de mesures qui s'imposent pour rendre les aliments propres. Et puis, en ce qui concerne l'hygiène, c'est plus le comportement. Il y a un comportement de l'opérateur. J'ai parlé de lavage des mains. Et il y a un autre comportement, c'est vestimentaire. Il doit être propre des tenues et des corps. Et un opérateur doit éviter, par exemple, d'avoir des ongles longs, des vernis, des joyaux, qui peuvent contaminer les aliments. Ça, c'est toujours lié au comportement. Il doit porter les bonnets pour éviter. Vous allez voir des gens qui ont des mèches en plastique, qui ne sont pas couverts par un bonnet. C'est pas autorisé. Si un morceau de mèche tombe dans l'aliment, c'est fini. Hein? Donc, si vous l'avalez, ça va pas être digéré. Hein, donc voilà un peu, c'est ça, c'est par rapport au comportement. De l'eau, c'est-à-dire de l'eau pour le nettoyage des lieux, l'eau de boisson doit être potable, l'eau pour le lavage des mains, et il faut qu'il y ait à côté des sanitaires. On ne peut pas servir les aliments loin des toilettes. On ne peut pas servir les aliments loin de lave-mains. Donc voilà un peu là, ce sont les exigences qu'ils doivent observer, et bien couvrir les aliments, bien sûr. Voilà. Si on le fait, là, on peut accéder à ces restaurants-là sans problème.
Mais généralement, toutes ces conditions d'hygiène ne sont pas respectées. Est-ce que votre service s'organise de temps en temps pour faire les tours de ces restaurants de fortune pour vérifier dans quelles conditions les aliments sont préparés?
Oui, bien sûr, nous avons la brigade d'hygiène qui a quelques éléments qui font les tours, mais c'est pas si facile parce que nous avons dit que les restaurants informels, ce sont ça fait partie d'un personnel mobile, un personnel difficile à maîtriser, parce que d'abord ils n'ont pas d'adresse fixe et ils ne sont pas toujours permanents. Ils peuvent aujourd'hui préparer ici, le lendemain il est là et ils changent. Il y en a qui servent les aliments la nuit. Voilà un peu autant d'obstacles auxquels on est confronté. Mais sinon, la brigade d'hygiène fait les tours, et quand on fait les tours, on les tient pas à l'œil, on passe une fois, et puis le reste des temps, ils sont seuls, donc, c'est question de remonter un peu les niveaux de conscience et de la sensibilisation, pour que même à l'absence de service d'hygiène, que ces gens-là puissent bien se comporter. Nous avons fait dernièrement un briefing, des acteurs des zones de santé, nous avons là-bas les médecins chefs des zones, l'animateur communautaire et technicien d'assainissement, parce que nous avons dans la ville constaté qu'il y a alerte sur la fièvre typhoïde et beaucoup de zones de santé ont notifié des cas. Alors donc pour donner une réponse à cette alerte, nous avons briefé les acteurs clés des zones de santé sur les pratiques clés d'hygiène en rapport avec la lutte contre les maladies d'origine alimentaire, et nous espérons que ça va aider à réduire un peu les risques chez les consommateurs.
Bénédiction Migo nous a écrit des Bukavu, au Sud Kivu. Il dit, je me demande quel est le rôle de la police d'hygiène et assainissement, car ici, dans la ville de Bukavu, il y a beaucoup de restaurants qui n'observent aucune mesure d'hygiène, mais fonctionnent sous la bénédiction des autorités et payent même les taxes à l'administration fiscale. Monsieur Assir.
Oui,
le rôle de la brigade d'hygiène et la police d'hygiène, c'est de prévenir les maladies liées au manque d'hygiène et assainissement des bases, mais en appui avec les autres services sectoriels. Vous savez que depuis toujours, parce que les gens un peu nous condamnent en disant, voilà, les services d'hygiène ne font plus rien. À l'époque, les services d'hygiène n'enlevaient pas les immondices. Les services d'hygiène ne venaient pas sarcler les rues. Les services d'hygiène, c'est les policiers. Cette police, ils faisaient avec la police du ministère de l'Intérieur. Mais aujourd'hui, ce tandem-là ne fonctionne plus. C'est ça le problème. Donc si les services d'hygiène bénéficient de l'appui des autres services, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur qui a la police, la justice qui a les parquets, je crois que cette brigade va reprendre sa casquette répressive. Je pense que ça va aller, ça va résoudre beaucoup de choses. Parce que ce qui tue pour le moment, vraiment, c'est l'impunité aussi. Hein. Il faut qu'on se le dise.
Donc on peut dire que bon nombre de ces malheurs devraient déjà fermer.
Oui, pas fermer. Nous ne demandons pas qu'on puisse fermer. L'OMS n'a pas demandé qu'on ferme les malheurs. L'OMS a demandé qu'on puisse faire la promotion de l'hygiène alimentaire au niveau des malheurs. C'est-à-dire respecter les normes d'hygiène. Point barre. Si on respecte, si tout le monde le respecte, il sera libre de vendre quand il veut n'importe où ses aliments, même en ambulatoire. Parce qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce dit ne peut constituer obstacle au flux d'un aliment qu'un argument technique. Donc nous n'avons pas à avancer un argument politique. Nous n'avons que les arguments techniques. L'argument technique, c'est-à-dire, pour nous, la technicité, c'est l'hygiène, l'assainissement des bases de l'eau. Si l'homme respecte ces exigences-là, il n'y a aucun problème, les gens vendent. Mais c'est vrai que nous allons aller dans le sens de les regrouper, leur donner des identités pour que nous puissions faire un suivi sur eux, parce qu'ils sont incontrôlables, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas de documents, tout ça, c'est un problème. Voilà un peu ce que moi je peux donner comme réponse en rapport avec cette préoccupation.
Jean de Dieu nous appelle des Kikwit, vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-6394.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Bien, Jean de Dieu, nous parlons des restaurants des fortunes appelés communément à Kinshasa, Malewa. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur le journaliste. Merci à l'émission qui est vraiment de l'actualité, surtout dans notre pays.
Et à Kikwit, comment ça se passe? Vous avez beaucoup de restaurants de fortune, des Malewa là-bas?
Oui, à Kikwit, il y a des Malewa qui sont vraiment nés comme des champignons partout, dans des coins, même dans des institutions scolaires, même dans des bars. Vous voyez, il y a le bar, le restaurant, c'est partout là. La plupart des gens n'ont pas le temps de préparer chez eux, ils se donnent. Mais il y a un problème, c'est tout ce qui concerne l'hygiène. Nous demandons, c'est une contribution à des questions que je vais poser à notre cher invité. Nous demanderons à nos services nationaux de l'hygiène de faire quand même un effort d'espionner partout dans les fortines appelées communément Malewa. Il n'y a pas vraiment du sérieux là pour ce qui concerne l'hygiène. Quelqu'un pouvait tenir son restaurant à n'importe quel lieu, là où il y a même des installations publiques. Vous verrez à côté là, il y a un Malewa. Quand on prépare, il y a des mouches qui viennent, qui précipitent aux aliments. Les services de l'hygiène, quand ils viennent là, c'est seulement pour contrôler superficiellement, ils contrôlent et on leur donne leur transport, ils partent. Ils ne donnent pas de sanctions parce qu'ils disent non, et on a déjà donné quelque chose. Bon, ils ne font pas de contrôle et ils ne sanctionnent pas. Dans ce côté-là, ils doivent voir et comment, parce que vous voyez, c'est un moyen où la plupart des gens sont en train de s'épanouir. Mais il n'y a pas moyen de fermer, mais les services de contrôle national des services de l'hygiène pouvaient renforcer dans ce sens-là. Ma première préoccupation, je voulais juste demander à notre invité, quelles sont les conditions appropriées que les services d'hygiène pouvaient quand même autoriser, que la maladie pouvait avoir, quelles conditions de la maison où on peut tenir un maléo. Vous voyez, dans le service même de la santé, le ministère de la pharmacie, il y a des conditions. Mais dans ce côté-là de la maléo, nous devons aussi avoir aussi des conditions à laquelle on peut tenir un maléo. Maintenant, la deuxième préoccupation, je demande aussi à notre invité, qu'est-ce qu'il peut nous dire par rapport au lavage du demain, par rapport à d'autres maléo où on est en train de laver le main communément dans un même récipient. Et maintenant, quelles sont les conditions où on pouvait maintenant exposer quelque chose pour commencer à laver le main dans le même aléa? Merci beaucoup.
Bon, bien, merci. Clément Daye de Kananga, bonjour.
Maître Jody, bonjour à l'invité de la Radio Kapi.
À Mbujimayi, pardon, à Kananga, vous avez aussi beaucoup de Maléwa.
Bien sûr que oui. Ici, vraiment, il y a trop de restaurants. Mais ce qui doit normalement me préoccuper, c'est le problème des Kamaï. Il y a un petit marché du Kamaï, communément appelé Rond-Point Chibombe. Si je viens là, ce que moi j'ai toujours remarqué, c'est quoi? Il y a des fois que quand les mamans qui préparent quittent à la soirée, il y a les jeunes vraiment abandonnés qu'on appelle les chefs qui ont l'habitude de passer nuit là et par contre ils doivent vraiment chier. Soit quand vous entrez dans les restaurants, il y a trop de, vraiment d'odeurs et d'une part, ce que moi j'ai toujours remarqué, c'est quoi? Sur les tables qu'on a exposées, c'est qu'on puisse mettre vraiment les choses à manger, il y a vraiment des mouches qui viennent vraiment c'est trop sale. Et si vous voulez intervenir, on dit non, voilà, ça a trop longtemps commencé, ce n'est pas vous qui pouvez, c'est qui pouvez normalement changer les conditions de vie. Alors dans ce cadre, normalement, puisque voilà quand le précédent vient vraiment de parler, quand on veut installer, par exemple, une pharmacie, soit quelque chose qui est conforme, soit qui contribue à la santé humaine,
oui, oui.
Il a fallu qu'il y ait vraiment des conditions.
Voilà. Alors, voilà, vous dites que...
demander à n'importe qui d'installer son restaurant, ou bien il n'y a pas certaines conditions, soit certains règlements, que quelqu'un doit vraiment suivre pour placer vraiment son restaurant, puisque c'est n'importe qui normalement qui place son restaurant. Il n'y a pas vraiment de règles. C'est ça ma première question. Et puis la deuxième question que j'aimerais vraiment demander à l'invité. Si souvent on dit qu'il y a vraiment les services d'hygiène qui peuvent normalement contrôler puis gérer, si normalement les services d'hygiène existent, et pourquoi partout dans certains restaurants, par exemple ici au niveau de Rimokasai, il y a un grand restaurant connu de tous, vraiment qui a toujours l'habitude de servir les gens. Mais est-ce que normalement y a-t-il de l'entretien, y a-t-il vraiment de la propriété? Puisque normalement, quand on mange et qu'on avale certains microbes, voilà qu'on s'expose vraiment à certains dangers.
Merci Clément.
On est vraiment victime.
Oui.
C'est la fièvre typhoïde. Puisque j'entrais dans un restaurant pour consommer les haricots.
Les haricots,
alors, voilà. On peut normalement encadrer les services d'hygiène pour que les services d'hygiène puissent avoir vraiment tout droit et puis tout l'œil sur vraiment les restaurants. Voilà mes petites questions. Merci. Bonne journée.
Bien. Jeudi.
Bonne journée aussi à l'invité du jour.
Merci. Apollinaire Assis, vous avez suivi ce que les auditeurs ont dit. À Kananga, il y a un marché, il y a un restaurant. La journée, les mamans préparent. Les soirs, c'est le restaurant est transformé en toilette. Et le lendemain, les gens viennent manger. Il y a des escadrons, des mouches à côté, des mauvaises odeurs. Alors, les auditeurs se demandent, est-ce qu'il n'y a pas des conditions d'ouverture avant d'ouvrir un Maléwa ou un restaurant, et il faut se rendre quelque part et obtenir les documents.
Merci Jordi. En réponse à M. Jean Dédier de Kikwit et M. Clément Daya de Kananga, je dirais simplement ceci, que je suis mal placé, je n'ai pas la casquette voulue pour parler de l'hygiène à travers tout le pays. J'ai une compétence territoriale bien limitée. Mais
le problème reste le même partout à Apollinaire. Nous parlons des normes. Oui, allez-y.
Ok, donc je voulais dire simplement que Castellane Etienne, ma contribution est celle-ci, que les normes de l'hygiène sont universelles. Si les gens de Kananga qui animent les restaurants ne respectent pas les normes d'hygiène, ils exposent les consommateurs. En ce qui concerne l'autorisation, je crois que si c'était un restaurant fixe, un restaurant informel mais qui a un abri, avant de fonctionner, et il doit être couvert par l'autorisation de l'autorité compétente du lieu. Si c'est, ça dépend de la municipalité ou de la province, il y a toujours le service de l'hygiène, soit de la brigade d'hygiène au niveau de la zone de santé ou de la coordination, qui accorde une autorisation. Avant cette autorisation, il y a l'enquête sanitaire à l'ouverture qui est instituée, c'est-à-dire on vient voir les lieux. Est-ce que l'abri est propre, comme j'ai dit, un abri propre, c'est-à-dire les murs sont crépis, on a rafraîchi les murs, on a pavé les sols et que l'opérateur a des ustensiles appropriés et lui-même, sa santé est contrôlée, est connue. Mais parce que quand on est porteur d'une maladie contagieuse, on ne peut pas servir les aliments. Ça, c'est l'exigence réglementaire. Et puis, il faut qu'il y ait un lave-main à côté. Et il doit être sensibilisé, en principe. Hein, et comme il est professionnel des aliments, il est censé avoir une formation rudimentaire sur l'hygiène ou l'assainissement. À ce moment-là, on peut l'utiliser à faire fonctionner un restaurant. Un restaurant ne peut pas fonctionner la journée et puis la nuit, on ouvre ça pour le chègue qui va chier. Ça, c'est pas normal. Ça doit être fermé, ça doit avoir une clé, on ferme. Ça doit être protégé des excrétats, des mouches et même des odeurs. Ça, c'est vraiment négligé. C'est une négligence de la part de l'opérateur et qui ne peut pas être laissé impuni. Alors, en ce qui concerne le renforcement au niveau qui parle de renforcement de la surveillance, c'est-à-dire des restaurants par les agents. Aujourd'hui, l'hygiène, c'est une affaire décentralisée.
Oui, un instant. Oui.
C'est une affaire purement.
Oui. Apollinaire Assire, un instant, on va accueillir Arsène qui nous appelle de Bujumbura au Burundi, ouais. Et Gentil Oumanou de Kananga. Arsène, bonjour.
Oui, merci. J'ai remercié à cause de m'associer dans l'émission, mais je m'inscris en faux, vraiment en faux concernant la réaction des invités, parce que je suis en train de les sentir. Il vient de dire à tout à l'heure que vraiment c'est difficile de contrôler partout. Et donc, mon Dieu, est-ce que vraiment c'est possible qu'ils donnent une telle réponse? Aujourd'hui, nous avons des programmes de services. Bon, concernant la santé, nous avons les sida, les poids, les diabètes, les tuberculoses, les programmes d'hygiène, et aussi parmi tous ces programmes-là. Bon, moi, ce que je suis en train d'avoir de sentir, pourquoi notre pays aujourd'hui se focalise toujours en qualité de santé pour les dons, pour les Belgiques, en vrai, c'est si Grande-Bretagne, nous avons fait seulement les sida et la tuberculose et le diabète. Pour le moment, concernant l'hygiène, vraiment, on ne fait pas des appuis. C'est là où il y a notre faiblesse. C'est parce que, je ne peux pas comprendre, nous avons les services de l'ANR. Pourquoi pas les services de l'ANR ne pouvaient pas s'impliquer quand on va des restaurants? Regardez, ici, à Gatumba, quand on fait l'entrée dans notre pays, vous sentez, il y a des restaurants, vraiment, on est en train de vendre des foufous, on vend des viandes sur la sole. Et on le fait sous la barbe des services de l'hygiène au niveau de la frontière. Vous verrez, au service de la frontière, ça se focalise uniquement pour l'entrée, pour le dépistage des vaccins, par exemple les cas de fièvre jaune, les problèmes d'Ebola, tout ça. Mais d'autres choses, on est en train de les négliger. Et pourtant, la choléra, c'est là où il y aura les sorties de choléra. Et c'est là où il y aura même les sorties.
Oui, merci, Arsène. Merci. Merci.
Donc, je termine, monsieur le journaliste.
Oui. Oui, rapidement. Rapidement, on a pris assez de temps.
OK. OK. L'invité, pourquoi pas, on ne peut pas faire le programme spécial entre l'ANR et le service d'hygiène. Pourquoi on ne peut pas le faire? Il ne faudrait pas que on le fasse manière pour dire qu'on ne peut pas contrôler partout.
Merci.
Ça sera une honte.
D'accord. Merci beaucoup. Gentil Oumanou de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à notre invité du jour.
Oui, quelle est votre question, Gentil Oumanou?
Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole pour le sujet du jour. C'est un sujet très important. Auparavant, le restaurant a été implanté pour aider les gens en urgence. Mais aujourd'hui, les restaurants sont devenus les agents causales de plusieurs maladies. Comme nos précédents vient de parler, le restaurant actuellement ne respecte pas les conditions d'hygiène.
Gentil, passez rapidement.
Alors,
la question.
Alors, je voulais demander à notre invité.
Rapidement, rapidement. On n'a pas assez de temps, passez directement
bon,
la question.
Est-ce que... Oui, il y a dans des écoles les facultés appropriées. Quand quelqu'un qui voulait ouvrir un restaurant, il doit tout d'abord passer par les bancs de l'école, suivre aussi cette... C'est là.
Alors,
parce que dans
oui.
un restaurant,
vous voulez
on
savoir...
plusieurs corps.
Vous voulez savoir si y a... on doit passer par une école de formation avant d'ouvrir un restaurant. Apollinaire Assire, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, je réponds immédiatement à M. Jean-Phi que ça ne demande pas que tout le monde passe par l'école pour former un restaurant. C'est vrai qu'au niveau de... Allô?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Au niveau de restauration informelle, on fait la préparation, la cuisine, c'est tout le monde qui le fait. Mais c'est question d'être renforcé un peu, avoir une formation de base, parce qu'on doit respecter pendant la préparation les règles de base en ce qui concerne l'eau qu'on va utiliser, et puis le milieu dans lequel on fait le travail, et puis la façon de servir les aliments. Donc c'est quand même un atout pour les manipulateurs ou bien pour les opérateurs. En ce qui concerne l'invité ou l'intervenant qui a parlé de la contradiction en rapport avec ce que j'ai dit et qui évoque le cas des jeunes aux frontières, je ne suis pas là pour susciter de débats, des conflits de compétences, mais je crois qu'il est informé, il sait que par rapport à l'hygiène alimentaire, c'est le secteur est partagé. Aujourd'hui, on parle de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, c'est une affaire de tout le monde. Hein? Donc, il y a plusieurs intervenants sur la chaîne alimentaire. Il y a plusieurs ministères qui interviennent en ce qui concerne les aliments. Il n'y a pas que les services de l'hygiène. Donc, nous sommes là plus proches du consommateur. Mais tous les problèmes liés à l'hygiène alimentaire, même au niveau des restaurants, ne surviennent pas des restaurants. Il y a des problèmes qui sont en amont, qui viennent même des matières premières à partir des ressources qu'on ne peut pas corriger au niveau des restaurants. Donc alors, là, c'est un autre débat.
Oui.
Je pense que nous en parlerons plus tard. Voilà un peu en réponse en ce qui concerne les deux derniers intervenants.
Alors, j'ai devant moi la réaction de Jospin Loupassa de Colésie. Il nous dit ceci, l'État, par le truchement de ses services, du service d'hygiène, alimente l'insalubrité dans ses restaurants de fortune. Les agents de l'État sont parfois corrompus par les propriétaires de ces restos. La sensibilisation et l'usage... et l'usage de la rigueur à l'endroit des cas des récidivistes aidera au redressement de la situation. Voilà, il nous dit que parfois les agents du service d'hygiène qui sont censés aller contrôler se font corrompre et puis bon, ils ferment les yeux et l'insalubrité, disons, l'hygiène n'est pas toujours respectée dans ces restaurants de fortune. Elvis nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bon, moi je vous appelle, je veux juste ajouter quelque chose par rapport à tout ce que les amis ont dit.
Ouais, rapidement.
Moi je me dis ceci, il y a un phénomène qui se passe actuellement, il y a des poulets qui sont vendus à 2000 francs, même à 2500 francs. Et actuellement sur le marché, ce sont ces poulets qui sont utilisés par ces gens des restaurants de fortune. Eux, ils veulent gagner plus et ils utilisent même les mauvais poulets. Et je ne sais pas si l'invité a une réponse qu'il peut me donner par rapport à ça, s'il connaît tout ce qui se passe actuellement sur les marchés.
Donc, un poulet qui est vendu entier à 2500 francs.
Oui, oui. Il y a des poulets qui sont vendus à 2500 francs, il y a des poulets qui sont vendus à 2000 francs.
Voilà. Monsieur Apollinaire, vous êtes au courant de cette affaire de poulets vendus à 2500 et des poulets de mauvaise qualité et servis dans ces restaurants?
Non, en tout cas, je n'ai pas l'information, j'apprends par l'auditeur, mais de toute façon, nous savons que le poulet dans la ville de Kinshasa, même nous tous, nous en consommons. Il n'y a pas de poulet de 2000. Hein? J'ai parlé la fois passée des soldes. On ne peut pas sauver la santé. Lorsque vous voyez quelqu'un venir vous présenter un bonbon à un franc, dites-vous que c'est un mauvais bonbon. Il faut pas l'acheter.
Ouais, il semble
parce que par rapport à la chaîne alimentaire, il y a la responsabilisation des consommateurs. Les consommateurs doivent prendre ses responsabilités pour éviter tout ça. Parce que nous avons dit que nous ne sommes pas toujours là. Nous ne sommes pas toujours là, là où on sert nuit et jour. Mais si le consommateur est responsable, il va d'abord dénoncer ce genre d'opérateurs et il ne va pas aussi non plus acheter. S'il n'achète pas, est-ce qu'on les oblige d'acheter? Pourquoi ils achètent des poulets comme ça? Vous voyez, un poulet de 2000 vraiment entre nous. Est-ce qu'un poulet normal peut coûter 2000? Donc ça, c'est une information que j'apprends, mais je pense que les consommateurs, aujourd'hui, nous avons des opérateurs qui ont des fourgonnettes, qui quittent leur entreprise, qui sont gardés par des forces qu'on ne sait pas atteindre, mais qui vont directement chez les consommateurs. Mais maintenant, quels sont les offres? C'est vous à nous aider. S'il y a des cas comme ça, vous les dénoncez ou bien vous refusez d'acheter, à ce moment-là, nous allons éduquer ces consommateurs-là vers eux.
Non, et d'après lui, c'est les propriétaires de ces maléwa vont acheter ces poulets de 2000 francs, qu'on appelle les poulets en vrac, qui sont pas dans des emballages en sachet. Voilà, c'est ce genre de poulets servis souvent dans les maléwa.
Oui, mais ça, c'est irresponsable de leur part. S'il y a des cas comme ça, s'ils les dénoncent, il y a toujours une service d'hygiène de proximité, on va les sanctionner. Nous avons dit qu'il y a la conscience des opérateurs. Il y a la conscience des opérateurs, les malheurs doivent utiliser de bonnes matières premières. Bonnes matières premières signifie éviter des aliments périmés ou avariés. Si un restaurateur a utilisé des produits avariés pour servir les consommateurs, il doit être sanctionné. Ça, c'est vraiment le cas que nous avons dit dans l'introduction. Ça ne demande même pas à réfléchir. C'est maintenant aux consommateurs de les dénoncer. S'il y a une maman comme ça qui utilise un produit périmé ou avarié parmi ses ingrédients au restaurant, dénoncez-les. Il sera sanctionné, pur et simplement.
Hein? D'accord. D'accord. Esther nous appelle depuis Yarou. Esther, bonjour. Oui, quelle est votre question?
Oui, merci pour la parole. C'est une préoccupation posée à notre invité. Ici à Arou, je voulais demander l'avis de notre invité à ce qui concerne les restaurants. Il faudrait parler des restaurants ici à Arou. Je voulais appeler ça restaurant mobile. Est-ce que tu vois ce que j'appelle restaurant mobile? Parce qu'il y a des mamans qui ont des nourritures à la maison. Il y a des cuillères, des poissons, des viandes, des manioc. Là, on prépare d'avance à la maison et puis tout au long de la journée, on va se promener avec ça à la ville.
Oui.
À part les nourritures comme ça, il y a aussi des boissons, comme les jus de fruits, il y a des jus de cacao, même de l'eau à boire pour mettre ça de santé. Alors, je voulais demander l'avis de notre invité, est-ce que les services, est-ce qu'ils prennent aussi garde à toutes ces mamans-là?
Voilà, merci Esther depuis Yarou qui nous dit que de l'autre côté, il y a des restaurants mobiles, hein, elle appelle ça restaurant mobile, les mamans qui préparent déjà à la maison et elles amènent la bouffe, elles circulent avec au centre, même à Kinshasa évidemment. On voit également des mamans qui préparent à la maison et elles viennent vendre, voilà, elles font des tours de bureau, voilà, pour proposer les maléwa et elles proposent aussi les jus de tangawisi comme elle nous l'a dit, mais est-ce qu'on vérifie dans quelles conditions ces aliments sont préparés même à la maison
Ok, merci. Maman Esther, je pense que ce que nous pouvons vous donner comme réponse à ce qui vous concerne votre préoccupation est que ce n'est pas facile parce que nous sommes en train de vivre ce que nous appelons la révolution alimentaire. La révolution alimentaire, nous allons vers des concepts inédits, mais je pense que la loi va se faire suivre. Donc la loi viendra, on va réglementer, les secteurs vont prendre des dispositions pour réglementer toutes ces affaires-là. Mais, dans un premier temps, ce n'est pas très prudent de se promener avec de la nourriture, surtout lorsque on n'a pas les moyens hein, de garder la bonne température. C'est ça le problème. Nous avons dit qu'on doit servir chaud. Vous avez préparé à la maison et vous allez de bureau en bureau. Vous allez faire peut-être les 2 heures les transports et puis aller dans les bureaux. Là, vous allez servir des aliments froids. Ce n'est pas autorisé. Donc, en principe, des cas comme ça, ce sont des cas à revoir. Ces gens-là doivent éviter d'aller sur de longues distances servir des aliments qui ont perdu leur température. Et oui, si au niveau des ménages, on n'est pas dans tous les ménages comme ça, voir qu'est-ce qu'on a préparé au niveau des ménages. Les gens sont autorisés à préparer ce qu'ils peuvent préparer et servir. Mais à condition qu'ils puissent respecter, comme j'ai dit, les conditions. La maman de Tangawisi, s'il a utilisé de l'eau potable et que ce Tangawisi n'est pas périmé, il peut servir, c'est une boisson qui parfois aide à la santé des gens. Donc ça, et puis utiliser un emballage propre. Donc il y en a qui utilisent des emballages en plastique. Et je préfère qu'ils puissent utiliser des emballages en verre. Parce que d'après les informations qu'on a reçues, les emballages en PET réagissent avec de contenu acide ou basique. On les tend, oui, c'est très acide, donc c'est pas prudent de les mettre dans un emballage en plastique. Il peut mettre dans les verres, réutiliser, mais bien nettoyer. À ce moment-là, ça peut y aller. Mais sinon, ce n'est pas très prudent d'aller se promener avec la nourriture, surtout si on n'a pas les moyens de se laver les mains, là où on va servir, et aussi de conserver la température de la nourriture.
Bien, on va terminer avec Léon de Bounia. Bonjour Léon.
Bonjour, aujourd'hui j'appelle à partir de Bounia par rapport au sujet du jour.
Oui.
Parce que ça m'intéresse très fort. Alors, j'aimerais un peu savoir aujourd'hui. Alors, chaque chose, on devait d'abord comprendre l'histoire de quelque chose. Aujourd'hui, vous parlez de restaurant. On n'a même pas eu le temps de comprendre ou à noter où est-ce qu'on a commencé avec cette histoire, peut-être dans l'Antiquité. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir par rapport à l'expert qui intervient. Est-ce qu'il peut nous dire il est de quel domaine? Parce que la façon dont il est en train de se démener, on ne sait pas lui citer. Ma préoccupation concerne maintenant par rapport au monsieur qui intervient à cette émission, s'il est responsable de charger des affaires alimentaires en RDC. Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes de vérification des titres scolaires ou académiques d'art culinaire appropriés aux gens qui servent de gens dans des restaurants? Parce qu'on ne peut jamais accepter quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose que les gens vont consommer en public, qui n'a même pas des qualités scolaires ou académiques de l'art culinaire qui peut préparer. Parce qu'aujourd'hui, je m'excuse, aujourd'hui, on peut lui taxer de dire que lui était le responsable des intoxications alimentaires, d'origine, donc des intoxications d'origine alimentaire, dans tout le pays. Est-ce qu'il a le mécanisme de recyclage ou soit de formation de tous ces gens qui font des restaurants de Malewa partout dans des cités? Parce que quand il parle de Malewa, lui-même ne connaît pas même l'origine du restaurant, d'où est-ce qu'on a commencé, à quelle année on a commencé. J'aimerais un peu qu'il puisse donner des idées de globalité par rapport aux préoccupations que je vais te donner.
Merci Léon. Apollinaire Assir, vous avez la parole.
Ok, merci monsieur de Bounia pour toutes ces préoccupations. Je pense que l'historique de Malewa ne remonte pas de Kinshasa, comme je l'ai dit. Donc, on appelle les Malewa, c'est un concept congolais, mais nous, en tant que avertis du domaine alimentaire, nous parlons de la restauration informelle. Vous pouvez lire, vous pouvez vous renseigner, l'OMS parle de la restauration informelle. Les restaurateurs informels, ce sont des gens qui préparent des aliments, soit à partir de la maison ou dans un coin, et qui peuvent servir 2-3 personnes ou se promener. L'OMS parle aussi des aliments de rue. Donc, et l'OMS va plus loin jusqu'à dire que tout ce qu'on mange en dehors de son ménage, c'est les aliments de rue. Donc, tout ce qu'on prend, vous prenez dans vos supermarchés et consoles là, ce sont les aliments de rue selon l'OMS.
Donc, alors,
les opérateurs. Les opérateurs, c'est vrai qu'il y a des professionnels. Ceux qui sont porteurs de petits titres, comme ceux qui ont appris la petite restauration au niveau de coupe et couture, ou bien l'art culinaire au niveau de l'institut esthétique où il y a l'option restauration, tout ça. Mais il y en a qui peuvent être formés sur l'État. C'est-à-dire qu'ils suivent un renforcement des capacités et servir les aliments. C'est pas interdit. Mais l'essentiel pour nous, comme nous l'avons souligné, c'est que ils puissent connaître les notions d'hygiène, parce que à côté, pourquoi on a introduit les aliments, l'hygiène à côté des aliments? Parce qu'avant, quand on mangeait, on savait pas que on s'intéressait seulement à la composition nutritionnelle de l'aliment. On voit protéines, lipides, tout ça, voilà, ok. Mais on se rendait pas compte que à côté de ça, il y avait aussi le problème de l'hygiène. Et lorsqu'on s'est rendu compte que non, à côté de la composition nutritionnelle de l'aliment, si on n'a pas respecté les conditions d'hygiène, il peut y avoir d'autres visiteurs que nous appelons les microbes et les contaminants qui peuvent exposer la santé. Voilà pourquoi on a intégré les notions d'hygiène dans les aliments et l'assainissement. Donc l'hygiène, ça fait partie d'un domaine d'assainissement. Si vous lisez la théorie, on va vous dire que la salubrité des aliments, c'est un domaine d'assainissement. Et le domaine d'assainissement là est géré par les ministères de la santé qui ont les aliments. C'est comme ça que vous voyez au ministère de la Santé, on a intégré les aliments au ministère de la Santé parce que c'est un domaine de l'assainissement et les aliments, c'est une préoccupation de santé publique. Parce que toute communauté se nourrit. C'est un domaine stratégique, on ne peut pas s'en passer des aliments. Voilà pourquoi nous, en ce qui nous concerne, nous savons que les opérateurs, s'ils ne sont pas formés, il faut les renforcer. Il faut les donner, les renforcements, les former pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions.
Ah si, Apollinaire, oui. On s'arrête là, on n'a plus assez de temps. Je rappelle que vous êtes chef des cellules d'Eligène, la coordination provinciale d'Eligène de Kinshasa. Merci et à la prochaine.
À la prochaine, merci beaucoup.